Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles connaissent sa voix. Il me semble que cette soirée, Dieu soulignait l'importance plus que jamais d'entendre sa voix. Je pense que si nous ne nous habituons pas à entendre sa voix, nous allons être complètement perdus ces jours-ci. Mais complètement. Nous allons paniquer devant les événements qui se bousculent. Vraiment. Et c'est pas pour rien que 3-4 personnes ont dit « Oui, le Seigneur m'a interpellé là-dessus. » Entendre sa voix. Entendre sa voix. Je me rends compte de plus en plus dans mon ministère que je suis devant des situations où je n'ai pas du tout la décision. Elle n'est pas évidente du tout. Et vous pouvez prier pour moi, il y a des moments, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Tout n'est pas forcément comme ça, blanc sur noir dans ma Bible. Il y a des indications, mais j'ai besoin de chercher la face de Dieu. Et je crois que l'exhortation du Seigneur en 2004, chercher la face du Seigneur, est d'actualité plus que jamais. Plus que jamais. Je me suis rendu compte à un moment que j'étais perdu dans un domaine particulier. Je cherchais un conseil à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et l'un disait bleu, l'autre disait blanc, l'autre disait rouge. Je dis, Seigneur. Ouais. Je dis, mais le Saint-Esprit me dit, mais Jean-Luc, écoute ma voix. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas écouter les conseils, loin de là, vous me connaissez à ce sujet. Mais nous ne devons pas dépendre des conseils. Il nous faut entendre la voix de Dieu. Et devant les événements qui se bousculent, je vous assure, nous allons perdre le lien avec le Seigneur si nous n'entendons pas sa voix. Nous allons mal interpréter les choses. Mal interpréter les choses. L'importance d'entendre la voix de Dieu. Pour tout, ça doit être la priorité. Vous pouviez prier pour moi. Que je ne sois pas sans arrêt trop au fourneau, au fourreau, si vous voulez, à droite et à gauche, à tel point que je n'entende plus la voix de Dieu. C'est pour ça que quelquefois, je vais dire non, je dois dire non à des choses, parce que sinon, je perds le travail essentiel qui est d'entendre la voix. Mais nous tous, ce n'est pas une promesse pour le pasteur, cette promesse, elle est une promesse pour nous tous. Vous entendrez sa voix. Vous entendrez sa voix. Ainsi, nous pouvons, si quand nous entendons la voix de Dieu, marcher avec assurance dans sa paix. Nous perdons la paix quand nous sommes dans la confusion. D'accord ? Et cette année 2004-2005 n'a pas été une année facile pour nous, Église de Wavrin, d'accord ? Je l'ai partagé. Après une année 2003-2004, très encourageante avec l'achat de cette salle, hein, avec la promesse de pierre vivante qui allait se rajouter, 3 prophètes sont venus le dire. On a quand même vu ces derniers mois plusieurs départs. D'accord ? Qui font qu'on a l'impression d'être un petit troupeau. Hein ? Alors bien sûr, il faut toujours se remettre en question, mais il faut surtout entendre sa voix dans ces temps de crise. Pour que dans ces temps de crise ou dans ces temps... que nous sachions comment nous diriger, que nous comprenions surtout ce que notre maître cherche à faire, que nous ne perdions pas sa paix. Il est important que nous ne soyons pas dans la confusion et que nous entendions un son clair. Je rends grâce à Dieu, il me semble entendre un son clair. Et j'aimerais vous partager ce son clair que j'entends en ce moment. Mais je l'ai déjà, vous l'avez perçu à travers certainement des brides de sermons que j'ai pu donner aussi. Donc il y aura des choses dans ce que je vais dire maintenant qui sont nouvelles, d'autres moins nouvelles, parce que vous avez déjà entendu. Mais je me sens la responsabilité qu'ensemble nous entendions un son clair sur ce que Dieu cherche à faire en ce moment. Et cette voix de Dieu, je l'ai reconnue à travers les circonstances dernières. Quand je suis allé en Angleterre il y a quelques semaines, Je reviendrai à la fin de mon message là-dessus. Quand je suis allé au rassemblement Réveil l'amour à Cambrai, vous savez que j'étais invité en tant qu'orateur à Cambrai et je devais parler le dimanche matin. Le thème m'était imposé. Le thème m'était imposé. Et le thème, c'était « Allez, soyez mes témoins dans le feu de l'Esprit-Saint ». Et le Saint-Esprit avait choisi le mot « feu » pour me parler et pour parler à l'Assemblée qui était là aussi. Et à travers les nombreuses remarques que j'ai entendues de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Merci, c'était ce que j'avais besoin d'entendre, je passe par là ». Plein de personnes. Alors ça m'a conforté dans cette conviction. Seigneur, merci, ça doit être le son clair que tu veux que nous entendions. Que tu veux que nous entendions en tant qu'Église. Et le Seigneur a forgé ma conviction sur les intentions de Dieu dans ce que nous vivons en ce moment. Alors boum, j'embraye sur le message à Cambrai, là, d'accord, que j'ai donné. Et le Saint-Esprit donc m'a arrêté sur le mot « feu » dans ma préparation. Et j'ai voyagé un peu dans les Écritures, et je suis venu à Jean-Baptiste qui a dit « Moi, je vous baptise d'eau, la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » D'Esprit Saint et de feu. Comment on comprend ce mot feu? Moi, tout de suite, je le comprends. Bah, le feu, ah, le feu. Le feu, les prodiges, les miracles. Mais non, regardez le mot que ça signifie. Regardez le mot qui signifie. D'abord, attention, je ne suis pas contre les miracles. Vous allez voir que la fin de mon message, je vais en parler. Mais ici, étymologiquement, ce mot signifie pur, pour, pur, pur. Il vient d'un autre mot, agonia, qui veut dire agonie, lutte pour la victoire, émotion et sévère lutte mentale, voire angoisse. Feu. L'Écriture parle clairement d'un baptême de feu et qui est, comme l'indique le sens du mot, une œuvre de purification. Purification. Est-ce que nous réalisons en tant qu'Église qu'on a besoin de ce baptême de feu? Laissez-moi vous lire quelques passages que le Saint-Esprit m'a conduit de lire. Curieusement, dans l'Ancien Testament aussi, les derniers livres, Zacharie, Malachie, Malachie chapitre 3, versets 2 à 4, il est dit ceci. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra, purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Ne sommes-nous pas des fils de Lévi? C'est-à-dire, la Bible ne dit-elle pas que nous sommes un royaume de prêtres, de sacrificateurs? Nul doute que ce passage y concerne les chrétiens. De Malachie. Zacharie, chapitre 13, verset 9, je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, je l'exaucerai et je dirai c'est mon peuple, et il dira l'Éternel est mon Dieu. Ésaïe chapitre 48, verset 10, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Tous ces textes sont pour nous. Je crois qu'ils sont pour l'Église, en même temps que le peuple d'Israël. Et enfin, un texte dans le Nouveau Testament, version parole vivante, 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Réjouissez-vous, même si actuellement vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or qui pourtant disparaîtra un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Ainsi donc, être les témoins du Christ, c'est être ses témoins dans le feu de l'Esprit-Saint, d'abord. C'est accepter cette œuvre de purification, d'abord, par le feu de l'épreuve, de l'adversité, de la tentation, de la persécution peut-être. Un ami qui nous trahit, nous abandonne. Rappelez-vous l'apôtre Paul qui a dit dans une de ses lettres, « Tous m'ont abandonné à la fin de sa vie. Tous m'ont abandonné. » Vous vous rendez compte? L'apôtre Paul qui dit ça. « Tous m'ont abandonné par amour pour le siècle présent. » Une personne en autorité au-dessus de nous qui a un caractère difficile au travail ou ailleurs, des accusations injustes qui fusent contre nous, même venant de chrétiens. Rappelez-vous Joseph, tout ce qu'il a subi par ses frères, par la femme de Potiphar et qu'il a amené en prison. Des résultats qui tardent à venir malgré nos efforts pour étendre le royaume de Dieu. C'est un test aussi. Est-ce qu'on baisse les bras, on abandonne, puis il y en a marre, ou est-ce qu'on persévère ? Nos propres enfants qui peuvent prendre une distance par rapport à la foi et même par rapport à nous-mêmes. Des humiliations diverses subies au travail. Toutes sortes de déserts spirituels par lesquels nous passons. Toute cette liste, pratiquement, j'ai passé avec Annette, pratiquement tout. Mais c'est bien peu à côté de ce que certains subissent et les premiers apôtres ont subi. C'est bien peu. Ces circonstances nous laissent quelquefois désemparés, comme ces chrétiens à qui Pierre écrit dans 1 Pierre 4,12 « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie lorsque sa gloire paraîtra. » Le sens du mot « fournaise » a pratiquement la même signification que le mot « feu ». Il parle du feu d'affineur pour éprouver notre caractère. La version parole vivante dit « Mes chers amis, l'épreuve a fondu sur vous comme un feu de brousse. N'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Elle éprouve et purifie votre foi. Réjouissez-vous, car plus vous participez aux souffrances de Christ, plus vous exulterez de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » Wow. Amen. Ouais. Passer par ce baptême de feu, c'est participer aux souffrances de Christ, qui nous a rappelé, n'est-ce pas, que le serviteur n'est pas plus que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Arrêtons de ne plus enseigner cela. Il faut l'enseigner. Il faut le dire. Nous ne pouvons plus cacher cela dans notre enseignement, en formant des disciples. Nous devons le dire. Il nous faut le dire. Nous devons préparer nos frères et sœurs à ce baptême de feu. Amen. Et mon cœur souffre quand j'entends des chrétiens me dire « Dieu ne répond plus à mes prières, il est sourd. » Mon cœur souffre quand je vois ces chrétiens tomber dans l'amertume ou dans la lamentation. Mais la parole de Dieu n'est pas « lamentez-vous » là, elle est « réjouissez-vous ». Réjouissez-vous, la parole de Dieu, elle dit. Vous serez mes témoins, car le feu par lequel vous passerez montrera au monde la réalité de votre foi. Elle montrera au monde la réalité de votre foi. Elle fera apparaître l'or dans votre vie. Elle fera apparaître la beauté du Christ dans votre joie profonde, malgré la souffrance, dans votre paix, dans votre douceur. dans votre confiance inébranlable. Une grande tentation, quand nous passons par le feu de l'adversité et de l'épreuve, est de nous laisser offenser. Et j'ai lu quelque chose récemment, dans ce même temps où je préparais ce message, un commentaire là, de Francis Frangipane, que vous connaissez peut-être, sur Internet, oui. Oh là là, super! J'ai lu quelque chose de super, qui vient à merveille pour illustrer mon propos. Hein. Et il dit, nous aurons toujours mille et mille occasions d'être offensés, jusqu'à la fin de notre vie, mille et mille occasions, à cause du désamour des autres, de l'abandon, de la trahison, de la haine. Nous avons plusieurs fois avec Annette, dans le cadre de notre ministère, été confrontés à la haine de personnes qui étaient pourtant très proches de nous au départ. Très proches. Et on a compris qu'il fallait protéger notre cœur. Il fallait protéger notre cœur. Et demander le cœur inoffensable de Jésus. Et l'Écriture nous avertit dans Matthieu, chapitre 24, verset 10, que dans les derniers temps, plusieurs succomberont, et certaines versions disent, plusieurs seront offensés, se laisseront offenser. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres, parce que le mal se sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et je lisais un commentaire sur ce passage récemment, donc c'est Francis Frangipane. Il disait ceci, Jésus a dit que les offenses seraient la cause ultime qui pousserait de nombreuses personnes à perdre la foi. De nombreuses personnes à perdre la foi. Ainsi Jésus lie la cause de l'apostasie, perte de la foi, non à cause des doctrines, mais de mauvaises réactions. De mauvaises réactions. Et il dit, traiter un cœur offensé est crucial pour maintenir une maturité spirituelle. Et Francis Frangipane a cette phrase très forte qu'on devrait presque, fait partie des phrases qu'on devrait afficher dans nos maisons ou dans notre chambre. Le destin que Dieu a pour un homme se développe ou meurt au carrefour de l'offense. Waouh, ça c'est fort. Le destin que Dieu a pour un homme se développe ou meurt au carrefour de l'offense. La façon dont nous la traitons est la clé de nos lendemains. La façon dont nous la traitons est la clé de nos lendemains. Il est certain que je ne pourrai pas supporter ce baptême de feu si je ne surmonte pas l'offense. Il y a un excellent livre qui existe de John Bever, c'est surmonter le, c'est ça, hein, c'est briser l'offense, surmonter l'offense, quelque chose comme ça, ouais. L'offense, l'arme cachée de Satan. Je vous invite vraiment à le lire, très bon. Alors je ne veux surtout pas dire que les blessures ne sont rien, surtout pas. Ouh là là, elles peuvent être très fortes, la trahison par exemple. Donc je ne veux pas parler à la légère, comme si c'est rien, hein, du tout, du tout. Mais Jésus a pris sur lui toutes ses blessures, ses meurtrissures. Nous pouvons, dans ses meurtrissures, trouver la guérison. Jésus a pourvu. C'est Carlos Payan qui disait, tu as toutes les raisons d'être blessé, tu n'en as aucune pour le rester. Aucune pour le rester. Donc le Seigneur Jésus à être ses témoins, est-ce que nous entendons ce message, à être ses témoins dans le feu de l'Esprit-Saint, nous invite tous à développer son caractère alors que nous passons par le carrefour de l'offense. Vous passez par le carrefour de l'offense en ce moment, est-ce que vous y voyez Jésus qui cherche à développer votre caractère? Son caractère en vous, en nous, en moi. Et je me rappelle dans cette période des 40 jours de jeûne et prière, quand notre comité embrase nos cœurs, s'est mis à l'écart, au vert, un petit peu avec d'autres qui nous ont rejoints, quelques amis, pour demander à Robert Rive, un serviteur de Dieu qui sait chercher la face de Dieu, pour nous donner une parole de sa part, de la part de Dieu. Et quand Robert Rive nous a donné cette parole, que fais-tu d'extraordinaire ? Alors, tout de suite, premier réflexe, comme le feu, il parle des prodiges ? Non. Il cite textuellement une parole de Jésus dans le contexte d'aimer ses ennemis. Si tu aimes ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire ? Si tu aimes ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire ? Mais si tu aimes tes ennemis, là, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que nous comprenons que si nous cherchons l'extraordinaire des miracles et des prodiges, et il faut les chercher encore, ça j'en suis convaincu, hein, je ne prêche pas du tout contre, vous allez le voir après, mais il nous faut d'abord rentrer dans cette dimension de l'extraordinaire-là, du caractère, et John le disait il y a quelque temps, primauté, priorité du caractère. Il ne doit pas y avoir de contradiction dans nos vies. Il le disait hein, il y a quelque temps. Pas de contradiction. Que fais-tu d'extraordinaire ? Est-ce que nous voulons rentrer dans cette dimension de l'extraordinaire là, d'un cœur qui aime en tout temps, même celui qui l'a offensé ? Le Seigneur nous invite à développer son caractère en nous, être ses témoins, c'est comprendre cela. Vous remarquez quand Paul parle des preuves de son apostolat, il y a de nombreuses lignes, avec à la fin une toute petite ligne sur les prodiges, mais plein de lignes sur la patience à supporter toutes les épreuves. Là, il y a plein de choses là-dessus. Les preuves de son apostolat. Je n'ai pas la référence là. J'ai oublié de noter la référence. Oui. Alors j'ai envie de faire une pause prière, quelques secondes, maintenant, face à ce sérieux avertissement de Jésus, avant d'aller plus loin. Dans l'évangile de Matthieu, plusieurs perdront la foi. Et là, comment je réagis par rapport à l'offense ? Comment je réagis ? Est-ce qu'on peut demander au Seigneur la grâce, maintenant, de bien gérer l'offense ? Que dans ce carrefour de l'offense, je me développe au lieu de mourir. Je fasse partie de ces gens qui vont se développer au lieu de mourir. D'accord ? Et que j'entre dans cette dimension de l'extraordinaire. Alors simplement je fais cette prière et vous la faites avec moi si vraiment vous sentez, ça fait écho. D'accord ? On peut fermer les yeux et faire cette prière. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau pour que je marche sur les pas de Jésus. Et que dans un monde où abondent les offenses, je ne trébuche pas. Je veux voir toute chose comme une occasion de prier et de devenir comme Christ. Aide-moi à voir les offenses comme des moyens de transformation. Donne-moi le battement du cœur inoffensable de Jésus. Seigneur, je veux vivre l'extraordinaire d'un cœur qui aime en toutes circonstances. Amen. Alors on peut aller plus loin. Waouh, on peut aller plus loin. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on était la période de Pâques et je cherchais une méditation pour le culte de Pâques. Donc là, vous vous rappelez, j'ai parlé sur les disciples d'Emmaüs. D'accord ? Autre personne désemparée, comprenant rien du tout. Jésus qui était cloué devant une foule, c'était l'obscurité partout, c'était le désespoir pour ses disciples. Désemparés. Leur cœur était rempli de tristesse. Et Jésus a dû leur dire, il fallait que le Christ souffrît. Ils croyaient avoir perdu Jésus, rappelez-vous, hein. Ils croyaient l'avoir perdu alors qu'il était en train de parler avec eux, en train de marcher avec eux. Ils nous ressemblent, ces disciples d'Emmaüs. Nous sommes comme eux. Nous sommes dans le baptême du feu et nous croyons avoir perdu Jésus. Et Jésus est à côté de nous. Il marche avec nous. Il est avec nous dans ce baptême de feu. Il est avec nous. Il ne nous quitte pas. Il faut que nous comprenions aussi, nous aussi, le « il fallait ». Il faut que nous passions par ce baptême de feu. Il faut. Parce qu'il nous faut comprendre l'intention divine. Jésus vient bientôt, très bientôt, chercher une église tiède. C'est vrai ? Une église tiède, pleine de compromis. Il vient chercher cette église-là. C'est celle-là qu'il vient chercher. Non, il vient chercher une église amoureuse et passionnée. Amoureuse et passionnée. Nous sommes dans un temps spécial, comme dans le temps où l'église a démarré. Il y avait Ananias et Saphira qui ont menti par le Saint-Esprit. Ils sont morts. Il ne fallait pas que le mensonge, il ne fallait pas que les cœurs partagés soient là. Et on approche dans ce temps où Jésus va emmener une église amoureuse et passionnée. Où Jésus s'occupe de son église. Je veux une église amoureuse et passionnée. Donc ne tolérez surtout plus en vous un cœur partagé, ne le tolérez pas. Attention, ça ne veut pas dire qu'on soit parfait. On peut très bien dire, je n'ai pas encore la victoire là, mais je veux avoir ce cœur partagé. Mais ne tolérez pas dans votre esprit, je peux avoir un cœur partagé. Oh là là, surtout pas. Parce que Jésus vient chercher une église amoureuse et passionnée. Et il prépare son église. Il prépare son église. Parce que, je l'avais dit, Dieu est un Dieu jaloux. Ben alors le mot jaloux a tellement une connotation négative, parce que la jalousie humaine, c'est tellement quelque chose d'affreux. Mais la jalousie de Dieu est sainte. Parce que Dieu a un désir saint, un but saint. C'est Paul qui l'exprime bien en disant « Je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Est-ce que nous comprenons cette intention divine ? Dieu veut protéger notre relation pure avec lui. D'accord ? Il veut la protéger. C'est pour cette relation que j'ai été créé. Tu aimeras Dieu tout ton cœur, toute ta force. C'est pour cette relation que j'ai été créé. Satan s'est interposé. Jésus est venu pour qu'on rétablisse, on retrouve cette relation dans sa pureté. Est-ce qu'on comprend cette intention divine quand on passe par le feu ? Le Seigneur nous dit, ne sois pas troublé, ne t'étonne pas comme si c'était anormal. Reconnais-moi par ce par quoi tu passes. Je suis à côté de toi, je marche à côté de toi. J'ouvre ton esprit pour que tu comprennes mon intention profonde. Je veux que tu m'aimes pour moi, pas pour mes dons. Je veux que tu m'aimes dans ta pauvreté, dans la nudité. Je veux que tu m'aimes plus que la popularité. Je veux que tu m'aimes aussi dans l'ombre. Je veux que tu m'aimes aussi quand tu es tout seul dans ta chambre, en train de prier, quand tu traverses des déserts spirituels. Je veux que tu m'aimes plus que tes œuvres. Et pour tester notre amour et notre foi, il se peut que Dieu nous demande notre Isaac, ce qui nous est le plus cher, notre Isaac, comme Abraham. Dieu a demandé à Abraham Isaac, son fils unique, et l'objet de la plus grande promesse qu'il avait reçue, par qui il devait y avoir une grande descendance. C'est un test. Et ce test a révélé l'amour d'Abraham pour son Dieu. Hein. Et Abraham a aimé et a eu la foi pour croire que Dieu pouvait faire ressusciter son fils. À nous aussi, dans le creuset de l'épreuve, il se peut que Dieu nous demande notre Isaac. Ce à quoi on est le plus attaché. Ce qui est l'objet d'une grande promesse de Dieu. Ainsi, un projet qui a fait l'objet d'une promesse, d'une grande promesse, semble mourir. Notre vie semble passer par une crise. Notre communauté semble passer par une crise. Mais le Seigneur garde le contrôle. Il cherche simplement à purifier nos motivations. Il veille à ce que l'œuvre qu'il nous confie ne devienne pas une idole. Est-ce que nous comprenons la possibilité que l'œuvre peut devenir une idole ? L'œuvre même de Dieu peut devenir une idole. Ce n'est pas un manque d'œuvre que le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse, c'est un manque de désir envers lui. Un manque de désir envers lui. Le cœur de Dieu saigne quand nous cessons d'avoir du désir envers lui. Le cœur de Dieu saigne quand nous cessons d'avoir du désir envers lui. Il nous veut amoureux, hein ? Il ne supporte pas la tiédeur, vous savez qu'il vomira les tièdes. Voilà, souvenez-vous de ce témoignage de cette femme que nous avons connue, qui s'est éloignée du Seigneur dans l'immoralité, puis qui est revenue avec un nouvel amour. C'est pour ça, ne mettons pas une croix sur des gens qui s'éloignent. Ne mettons pas la croix. Plus d'un est revenu avec un nouvel amour. Et cette femme disait, je peux me trouver seule dans une pâture. Je suis la plus heureuse des femmes parce que j'ai Jésus avec moi. Voilà. Elle est remplie de désir envers son Dieu. Remplie de désir. Voilà ce que Dieu cherche à produire en nous. Une telle intensité de désir dans le cœur qu'on découvre qu'il est tout pour nous. Et quand Dieu voit ce désir intense en nous, son cœur est touché. Et alors, nous sommes cette offrande qu'il agrée. Quand nous acceptons de passer par le feu, par fidélité et par amour pour lui, alors oui, Dieu veut envoyer le feu de son abondance sur nous. Lisez psaume 66. Psaume 66, versets 10 à 12. J'en arrive presque au bout. Psaume 66, versets 10 à 12. Car tu nous as éprouvés, tu nous as sondés, ô Dieu, comme on éprouve l'argent. Tu nous avais amenés dans le filet. Tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête, nous avions passé par le feu et par l'eau, mais, tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Amen. L'abondance. Donc ce que j'ai développé à Cambrai, c'était deux certitudes. La première, il faut que nous passions par le feu. Et donc, ce que Dieu veut chercher à nous dire, il faut que nous passions par le feu parce que nous avons besoin d'être purifiés. Et la deuxième certitude, et là je viens de l'aborder, le feu de son abondance m'est promis. Parce que Dieu est profondément généreux. Il est généreux. Il est généreux. Je suis appelé à être le témoin aussi dans le feu et en même temps à être le témoin du feu de son abondance dans ma vie. On voit la générosité de Dieu quand il parle à Abraham, une fois qu'il a offert son fils. Qu'est-ce qu'il dit ? Oh, je le jure, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils. Je te bénirai, je te multiplierai, ta postérité comme les étoiles du ciel. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Voyez la générosité de Dieu ? Incroyable. L'abondance de Dieu, incroyable. Et dans un livre que j'aime beaucoup, que j'ai recommandé souvent, « Déboucher les puits de réveil », l'auteur du livre, qui est vraiment un grand intercesseur, a dit ceci, et cet homme a vécu du côté de Los Angeles, où a été répandu vraiment le réveil pentecôtiste, là, Azusa Street. Il a dit « Les stratégies n'amèneront jamais le réveil, car le réveil, c'est le débordement du cœur de Dieu face à une vie livrée. C'est la réponse du Père à ceux qui l'ont aimé. » Et à qui il a fait des promesses, il envoie alors le feu sur leurs offrandes. Amen. Donc je suis convaincu que Dieu est généreux, son cœur est débordant. Je me souviens au début de l'église ici, On n'avait aucun musicien. Et le Seigneur m'avait donné le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Et qu'est-ce que le Seigneur nous a envoyé comme cadeau? Il faut le redire, ça. Il faut y repenser. Plein de musiciens d'un seul coup qui sont arrivés. Chacun en fait partie, Myriam, John, Beryl en font partie, Love Day. Hein, il y avait Michel, bien sûr, aussi. Hein. Plein de musiciens. Dieu a envoyé des hommes qui aimaient Dieu de tout leur cœur. Tous les cadeaux qu'on a eus, avec ces catholiques qui nous ont prêté des salles et salles après salles. Ça, c'est merveilleux. Ce prêtre catholique de Wavrin qui est venu témoigner dans notre salle, qui est venu envoyer un chèque pour nous. Mais il faut reconsidérer ça pour vraiment être sûr de la générosité de Dieu. Et je vous dis, je le crois, j'en suis sûr, que ce n'ont que des tout petits signes par rapport à ce qu'on va voir dans les années qui viennent de la générosité de Dieu. Dieu est généreux, vous y croyez? Amen. Ouais. Il est généreux. Il peut même exaucer nos rêves les plus fous, j'en suis sûr. Quand on est branché, quand on est bien, on a bonne motivation. Et quand, ok, on accepte de passer par le baptême du feu. Quand on ne renie pas Jésus en quelque sorte, en refusant ce baptême du feu. Non, non, pas pour moi. Non, 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 non. Non, non. Ouais. Dieu est généreux. Je cite une autre citation, j'en arrive presque à la fin. Hein. La Pentecôte n'est pas uniquement une sorte de stratégie divine pour propager l'Évangile, mais elle est le trop-plein d'amour divin au vu du sacrifice de son Fils unique. Dieu rempli et généreux quand il voit le sacrifice, quand il voit l'esprit de sacrifice. Il est généreux. Il envoie son feu. Ne doutons pas de la générosité de Dieu alors que nous sommes dans le feu de l'épreuve. Ne doutons pas de sa générosité. Obéissons à la parole. Soyez mes témoins dans le feu. Et le Seigneur a toujours eu dans les moments de doute que j'ai traversés, une parole pour me rassurer. Et je pense qu'il l'a fait pour vous aussi. Quand, il y a 5 ans, j'étais vraiment dans le doute. Après des moments difficiles, Dieu a envoyé Carlos Payan pour prophétiser là, sur la région, à Wavrin. Quand 2 ans après, j'étais de nouveau dans le doute, le Saint-Esprit m'a dit « Réécoute la parole ». Et vous vous souvenez que dans ce que j'ai écouté sur la cassette, il y avait 2 paroles que le Seigneur m'avait données au début de l'histoire de l'Église. « Voici, je mets devant toi une porte ouverte ». Que personne ne peut fermer. Et juge, va avec la force que tu as. Et vous vous souvenez, le dimanche matin, Steve Blacka est venu en disant, je ne vous donne pas une nouvelle parole, mais une parole de confirmation, va avec la force que tu as. Et on peut dire que c'était le même moment de doute qui était là quand, il y a quelques semaines, on est allé en Angleterre. On se disait dans le train, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs sont en train de partir, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moment de doute. Quand on était en Angleterre et que j'étais donc logé chez un couple, et le dimanche matin, quelques-uns le savent déjà, je l'ai déjà dit, mais d'autres ne le savent pas, le dimanche matin, quand, avant le petit déjeuner, je lisais un livre, Déboucher les puits de réveil, un chapitre, en tête du chapitre, Apocalypse 3:8. Voici, je mets devant toi une porte ouverte. Ah, tout de suite, ça vibre. Saint-Esprit me dit, Jean-Luc, t'oublies pas que je t'ai dit ça. Je redescends en bas, j'ai une conversation avec l'hôte, cette dame, qui me parle d'une prédication de John Mulindé, et elle me montre un papier avec un plein de notes en anglais. Je dis, bon, c'est bien, mais moi, je ne lis pas l'anglais. Donc... mais il y avait 4 mots en français. 4 mots en français dans ce papier. Et les 4 mots étaient « La porte est ouverte ». La porte est ouverte. Je l'ai même partagé à frères et sœurs d'embrasse nos cœurs qui ont été stupéfaits, vraiment. Et ça leur parlait à eux aussi. Saint-Esprit me disait, Jean-Luc, il peut arriver quoi que ce soit, n'oublie pas, la porte est ouverte. Je l'ai ouverte. Et si je l'ai ouverte, personne ne peut la fermer. Personne ne peut la fermer. Personne. Et je crois qu'à plusieurs ce matin, le Seigneur dit ceci. Je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance, que tu as su rester vulnérable, en obéissant à ma parole, en acceptant par le creuset de l'épreuve, de passer par le creuset de l'épreuve, en acceptant ce baptême de feu, en acceptant de ne pas renier mon nom, en partageant mes souffrances, alors j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Aucun homme, aucune institution, va sur la base de mon appel, avec la force que je te donne, pas sur la base de tes capacités. Mon esprit viendra sur toi, tu seras mon témoin, la porte est ouverte. Et je termine avec Ésaïe 60, texte reçu vendredi. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît. La gloire de l'Éternel se lève sur toi, car voici que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi se lève l'Éternel, la gloire apparaît. Le son clair dont j'ai parlé au début se résume en 6 mots. Les 4 que j'ai dit, la porte est ouverte, et les 2 autres mots, lève-toi. D'accord ? Je répète, le son clair que Dieu nous demande d'entendre en ce moment. La porte est ouverte, lève-toi. Pas pour faire n'importe quoi, pour aller là où le Seigneur t'envoie. Et je crois aussi qu'à plusieurs, le Seigneur dit ceci. Parce que tu te dis peut-être, je suis sec. Je suis sec, je me sens sec et tout est sec autour de moi. Tout est sec. Mais le Seigneur dit, lève-toi. Ne te laisse pas piéger par l'adversaire qui veut te cacher mon œuvre, mes intentions, qui veut te paralyser par la peur, par les complexes. Quand tu vas te lever, le zèle viendra, même la fatigue disparaîtra. Si tu restes assis, tu resteras sec, tu resteras dans ta fatigue. Lève-toi. Mon esprit viendra sur toi. Souviens-toi comment tout un peuple s'est levé, sorti de sa peur, suite à ce qu'un homme et un petit homme, David, s'est levé. Tout un peuple a bougé. Lève-toi. Plusieurs vont bouger derrière toi si tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, plusieurs ne bougeront pas. Et il dit encore, le temps est court. Ce n'est plus le temps de rester assis. Je m'excuse, hein. C'est plus le temps de rester assis. Et à Lisieux, pour ceux qui étaient là, on aura l'occasion de partager dimanche prochain, il y aura des partages. Vraiment, il y a une prière contre la paresse et l'oisiveté des chrétiens. Oisiveté. C'est plus le temps de rester assis. Le temps est court. C'est même plus le temps de marcher. On l'a reçu vendredi. C'est le temps de courir. Et vendredi soir, on a couru autour de la salle. On a couru autour de la salle pour appeler l'église à courir maintenant. C'est le temps de parler, de témoigner. Ta destinée n'est pas de te laisser aspirer par les ténèbres, mais de te laisser submerger par la lumière et par la gloire de Dieu. Amen. On se lève et on prie, d'accord ? Je rappelle la parole, la voix que le Seigneur, la parole que le Seigneur donne. La porte est ouverte, lève-toi, regarde, plusieurs portes sont en train de s'ouvrir. Regarde, plusieurs portes sont en train de s'ouvrir. Des portes s'ouvrent ici à Wavrin. On a beau être un petit nombre, c'est vrai, on a un petit troupeau, mais des portes s'ouvrent, associatives, elles s'ouvrent. Avec les catholiques, elles s'ouvrent. Des portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent autour de toi, dans ton village. Dans ton village. Parce que si tu as la paix, si tu montres l'amour, la douceur dans le feu que tu traverses, les gens vont être attirés à toi. Les gens vont se dire, oui, la vérité, elle est là. Elle est là, la vérité. Lui, il est en paix. Lui, il ne se lamente pas comme les autres. Lui, il ne se plaint pas comme les autres. Lui, il est pas dans la dépression comme les autres, mais il est joyeux. Il a la joie. Il a la paix. Oh, Seigneur Jésus, merci. La porte est ouverte. Lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ces temps nouveaux. Et je crois que ces 40 jours qui viennent sont vraiment un outil que tu donnes dans notre levée, dans notre levée. Dans ce temps, nous nous levons pour non seulement marcher, mais courir vers toi. Seigneur, nous voulons t'obéir. Nous laissons nos complexes, nous laissons nos hontes, nous laissons nos peurs. Nous ne laissons pas piéger par l'adversaire. Seigneur, nous comprenons tes intentions. Nous comprenons ce que tu cherches à faire. Nous le comprenons, Seigneur. Nous ne nous laissons plus arrêter par l'offense. Nous comprenons ton intention de développer notre caractère. Et Seigneur, nous entrons dans cette extraordinaire, la dimension de l'extraordinaire des mets en tout temps, pour ensuite entrer dans l'extraordinaire des prodiges et des miracles. Parce que tu auras vu l'esprit de sacrifice, parce que tu auras vu cette offrande que nous sommes. Louange à toi, Seigneur. Merci pour le zèle que tu vas redonner. Merci pour... oui, le zèle et l'esprit qui va descendre sur nous pendant qu'on est en train de se lever. Amen. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi. Amen. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Oui.